Une bonne nouvelle d'après Marc. Lecture suivie de l'évangile de saint Marc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Dans l'épisode précédent, Marc est d'une clarté aveuglante. Il le montre, ce Jésus de Nazareth, comme le maître du temps. Ici, dans un deuxième mouvement, ça va être, comment pourrait-on dire, le noviciat, les années de formation des 12. Il va les emmener avec lui partout, mais il va nous les nommer, il va nous les présenter, et puis il va les emporter avec lui pour leur faire la démonstration, comme un cours de CAPES, enfin, d'aptitude professionnelle à l'enseignement supérieur. On va parler, on va voir, on va le voir juger agir de l'action catholique. Et puis avec des exemples, une magnifique parabole, celle du semeur, et puis des explications le soir. Écoutons-le.
Ce matin-là, dans l'aurore illuminant le lac, Jésus gravit la montagne toute proche, après avoir choisi 7 autres compagnons, en plus des 5 appelés la semaine précédente. Il voulut en faire un groupe de 12, comme des chefs des 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, qui resteraient avec lui, et qu'il enverrait clamer le message à leur tour, avec pouvoir d'expulser les démons. Avec Simon, à qui il impose le nom de Pierre, il y avait Jacques et Jean, qu'il surnomma « fils du tonnerre ». Ces 3 seront ses plus proches. Et puis il y avait aussi André, Philippe, Bartimée, qu'on appelle aussi Nathanaël, Matthieu, Thomas, et un autre Jacques, fils d'Alphaï, Thaddée et Simon, dit le Zélote, qui signifie « résistant ». Il faisait partie d'un groupe armé. Sans oublier Judas, originaire de Kériot. C'est pourquoi on l'appelle parfois Iscariote, celui qui devait le livrer. Tout ému, on redescendit la montagne pour rentrer à Capharnaüm. Mais la foule qui se demandait où il était passé se précipite à nouveau, si bien que Jésus ne peut même pas manger un morceau. En l'entendant encore parler à la multitude et s'attarder avec chacun, les siens sortirent de la maison pour se saisir de lui et le ramener en pensant qu'il avait perdu la tête. Les scribes, d'autres encore qui avaient rappliqué de Jérusalem, renchérirent. « Il est possédé du démon. Oui, c'est grâce au chef des démons qu'il chasse les démons. » Déjà emporté par ses proches, Jésus se retourna, se dégagea de leur étreinte, interpella ses adversaires et essaya de les raisonner. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, lui non plus ne peut subsister. Il est fini. Vous savez bien que personne ne peut forcer la maison d'un homme fort, à moins que de le maîtriser d'abord. Ils l'écoutaient de haut, mais leur cœur restait fermé. Attention, écoutez bien, tout sera pardonné aux hommes, les torts, les blasphèmes, tout. Mais celui qui blasphème contre l'Esprit de Dieu ne connaîtra aucun pardon. Jamais. Lui, un démon? Il n'en revenait pas. Sur ces entrefaites arrivèrent sa mère et ses frères. Nazareth n'est pas très bien loin de Capharnaüm et ils avaient dû apprendre qu'il s'y trouvait. Jésus était déjà rentré. Sa famille voulut attendre dehors et les envoya appeler. Et à l'intérieur, il y avait encore beaucoup de monde autour de lui. On lui transmit la requête. « Il y a là ta mère, tes frères, tes sœurs, ils t'attendent dehors. » Mais Jésus n'hésita pas une seconde et il répliqua, « Qui est ma mère et mes sœurs ?» Il parlait assez fort pour que l'on entende à l'extérieur. Et d'ailleurs, tout le monde s'était tu soudain. Lui regardait à la ronde, en dévisageant chacun. Il continua, « Voilà ma mère et mes frères. » Qui fait la volonté de Dieu, mon père, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Certains rapportent que Marie avait fermé les yeux et qu'elle souriait. C'était bien son fils qui parlait ainsi. La journée n'était pas finie. Il retourna au bord de la mer. Comme à l'accoutumée, on le pressa aussitôt de toutes parts, si bien qu'il monta dans une barque et il s'y assit tandis que la foule à terre était tendue vers lui et s'installa à son tour sur tout ce qui traînait. On était là à l'amphithéâtre. Il se mit à leur raconter des histoires qui deviendront des paraboles. Il disait « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Et pendant qu'il sème, une partie de la semence tombe le long de la route. Les oiseaux viennent et mangent tout. Il en tombe de la rocaille où il n'y a pas beaucoup de terre. Cela lève vite, car la terre n'est pas épaisse. Mais au premier coup de soleil, tout brûle, et faute de racines, tout se dessèche. Il en tombe dans les épines, qui montent et asphyxient la semence, qui ne produit rien. Enfin, il en tombe dans la belle terre, et cela donne du fruit qui monte, croît et se multiplie par 20, par 60, par 100. » Et il ajouta, « À bon entendeur, salut !» Le soir tombait maintenant, et chacun se retira. Mais quelques irréductibles suivirent les 12 et voulaient le questionner plus loin. Jésus, qui répond toujours, fut assez mystérieux. « Le règne de Dieu n'est pas évident, mais vous comprendrez bien ce que c'est. » Ceux qui restent dehors, il faut leur en parler en images, car les yeux ouverts, ils ne voient rien, et les oreilles ouvertes, ils n'entendent rien. Alors, ils n'évoluent pas, et ils en subissent les conséquences. Puis Jésus ajouta, « Alors comme ça, vous ne voyez pas. Cette histoire, mes histoires, comment les comprenez-vous ? » Pour le coup, il n'osait plus rien dire. Eh bien, le semeur, c'est la parole qu'il sème. Ceux du bord de la route l'entendent, mais le mal vient vite à la rescousse et à leur faire oublier. Ceux de la rocaille non plus ne sont pas sourds. Ils sont même heureux d'entendre, mais ils manquent de fond. Ce sont des velléitaires. À la moindre difficulté, au moindre effort, ils achoppent. Ceux des épines entendent eux aussi, mais ils ont toujours trop de soucis, des préoccupations d'envie, de caprices. Tout cela les asphyxie et ils deviennent stériles. Ceux de la belle terre, eux, entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit 30, 60, 100 fois plus. On buvait littéralement ces paroles. Dans la nuit criblée d'étoiles, et Jésus enchaîna. Une lampe. Vous la mettez dans l'armoire sous le lit ? C'est fait pour le lampadaire, non ? Vous savez, tout ce qui est caché, on le découvrira, et tous les secrets se sauront un jour. À bon entendeur, salut. Il insistait maintenant. Prenez garde à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que vous aurez utilisée pour les autres, bon poids. Car voyez-vous, plus on a et plus on acquiert. Et le rien qu'on a, si peu que ce soit, nous est enlevé. Et dans le même souffle, il enchaîna, « Eh oui, le règne de Dieu ressemble au semeur. Il s'endort, se réveille, nuit et jour, la semence germe, croît, et il ne sait comment. Et la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé. Et quand le fruit est mûr, il envoie la famille, c'est la moisson. Que pourrais-je dire encore ? Allez, un dernier exemple, tenez. C'est comme une graine de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences, mais une fois en terre, elle monte et devient la plus grande des plantes avec d'immenses branches où viennent s'abriter les oiseaux du ciel. » Voilà comment Jésus leur parlait, au moyen d'exemples et de comparaisons adaptées à leur compréhension. Il ne faisait que cela, mais une fois seul avec ses compagnons, il leur expliquait tout.
encore, et puis on n'aurait plus envie d'aller se coucher. Parce que la façon dont il parle, ce qu'il nous dit, c'est à la fois simple, c'est convaincant, cela nous touche. Et ces 12 là dont Marc nous présente d'abord les fiches d'identité, en mettant une petite caractéristique, nous prouve bien que tout cela s'adressait à toutes sortes de gens, que ce soit ce patron pêcheur qui est Simon, avec les deux fils de Zébédée, qui devaient succéder à leur père, mais qui sont de caractère de chien, hein, fils de tonnerre, c'est pas pour rien. Et puis, Nathanaël, celui qui dit tout ce qu'il pense et qui est très critique, Matthieu, celui qui s'occupe de fric, Thomas, qui sera là, qui sera pas là, qui doute, et puis il y a même, donc, vous avez vu des résistants, des OAS, des IRA du coin, des Hamas, qui tentent des pièges, etc. Et jusqu'au traître, puisque dans toute tragédie, il y a quelqu'un qui va faire le dénouement. Alors les voilà, il les suit, il monte sur la montagne d'abord, puis ils redescendent, il est là pour eux. Il est là pour leur montrer, pour les enseigner. Et la seule façon de bien prouver que cela s'adresse à tout le monde, c'est qu'il n'y a plus ni père, ni mère, ni frère, ni sœur physique. Il n'y a que les enfants de Dieu, tous soumis au même amour et rachetés par lui. Mais comment fait-il? Ben, Marc nous le dit. Parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, hein. Raconter à quelqu'un quelque chose au bout de la table ou dans un salon, dites « il y avait une fois » et tout le monde se tait, parce que nous aimons les histoires et ça par les histoires que nous vivons, parce qu'elles nous renvoient à notre inconscient, qu'il soit collectif ou personnel, à tout ce qui se trame en nous depuis notre génération à nous, mais depuis toutes les générations qui nous ont précédés. Alors il raconte des histoires, il commence d'ailleurs par planter le tableau des histoires, c'est-à-dire le semeur, c'est-à-dire les quatre catégories. C'est un peu scolastique, c'est un peu scolaire, mais ça dit bien les choses, hein, ceux qui, bon, on n'écoute de toute façon jamais rien, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Il y a bien ceux qui écoutent, mais bon, je pense à autre chose. Puis il y a ceux qui sont enthousiastes comme ça, ils sont prêts à aller, à tout faire n'importe quoi, mais ça ne tient absolument pas. Mon Dieu, 25% semblent écouter et avancer. Alors, ceux-là, ils veulent aller encore plus loin, et le soir, on s'attarde, on allume le brasero et on dit « Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Explique-nous, dis-nous pourquoi. » Ah, qu'on aimerait comme ça, s'attarder auprès de Jésus. Et il ne tient qu'à nous de nous asseoir à ses pieds.
C'était Une bonne nouvelle selon Marc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.